La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés, bonjour. Il m'honore d'être avec vous ce dimanche, jour du Seigneur, pour ce moment de partage pour le peuple de Dieu et particulièrement le peuple du très saint ministère international Repère des Nations en Christ et le peuple des adorateurs de Jésus-Christ sur toute la planète. La thématique qui est annoncée peut avoir un parfum romantique, des aspects spirituels, une dimension psychologique, des parfums sociologiques, peut-être même un relan anthropologique, avec des versants qui rappellent un côté sapiential, car il s'agit de science et de SIA. Néanmoins, tout ce que nous allons partager aujourd'hui relève fort heureusement de la pratique, de la concrétude de ce que l'on peut acquérir essentiellement et uniquement dans une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Si nous avons choisi la thématique intitulée telle que le titre le dit, l'humain qui se sait aimé par Christ, c'est parce qu'il y a urgence à donner conscience à ceux qui sont des croyants, des adorateurs, à donner conscience sur les impacts, sur les effets, sur les conséquences, les incidences de ce que cela signifie d'être en Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Au-delà des discours, des logiques traditionnelles d'évangélisation, il y a des dimensions de praxis, de pratiques quotidiennes qui sont méconnues, ignorées, inconnues, évitées, alors qu'elles devraient être explorées. Non pas qu'on ne sache pas dès le départ que l'homme a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, notamment quand on regarde l'esprit de Genèse 1, le verset 26 à 27. Non pas qu'on ne sache pas que Dieu soit le Tout-Puissant et donc qu'il puisse tout faire, et qu'il est l'incarnation même de la souveraineté, de la liberté, de la puissance, de l'autorité, du pouvoir. Mais il y a d'autres dimensions que nous voulons mettre en exergue. Des dimensions du réel qui ne sont pas à suffisance enseignées, qui, lorsqu'on les mettra en exergue, vont aider à ce qu'il y ait une démarcation, vont aider à ce qu'il y ait une dédogmatisation, vont aider à ce qu'il y ait un désenvoûtement, vont aider à ce qu'il y ait une démonastérisation, vont aider à ce qu'il y ait un désenfermement et que les uns et les autres sortent des sentiers traditionnels qui tous sont des sentiers d'esclavage, d'emprisonnement, d'enfermement, pour comprendre la simplicité, la pureté avec laquelle la relation à Christ est censée être vécue. Nous allons donner cet enseignement dans le but de démythifier la relation à Christ et de démystifier la compréhension que les uns et les autres se font de la relation à Dieu. Il y a d'abord une question identitaire qu'il faut dégager. Nous l'avons annoncé sans le dire. C'est la question qui impose que toute logique humaine sensée, honnête, oblige à reconnaître que Dieu est le créateur de l'univers visible et invisible. La perception, la représentation, la compréhension, l'intellection que l'on se fait de cela est déjà fondamentale. Beaucoup de personnes s'approprient très peu l'idée, la vision, la réalité qui implique que l'Éternel des armées soit le créateur de l'univers visible et invisible. Peut-être parce qu'ils ne se sont jamais posé des questions sur le nombre de galaxies, sur le nombre d'étoiles qu'il y a dans les galaxies, sur la position de la Terre dans la Voie lactée, sur le pouvoir que le Créateur possède pour déployer autant de puissance de l'invisible au visible. Peut-être qu'ils ne se sont jamais posé des questions sur la nature, dans le microcosme que représente la Terre au milieu de l'existant. Peut-être qu'ils ne se sont jamais posé la question de savoir, mais est-ce que ces choses sont arrivées d'elles-mêmes? Il faudrait bien qu'il y ait une intelligence supérieure, de très loin supérieure à l'homme, pour avoir pensé dans le détail cette nature qui est vivante, qui est vibrante et qui même est vivifiante quand on sait en faire un bon usage. Mais tout homme qui ne part pas déjà de ce préalable, de reconnaître que l'Éternel des armées est le créateur de l'univers visible et invisible, souffre d'une faiblesse fondationnelle, structurelle déjà, et même configurationnelle, qui va déclencher des insuffisances fonctionnelles et opérationnelles. La fondation ne peut être solide que quand on reconnaît la place de Dieu comme étant créateur de l'univers visible et invisible. Et par simple bon sens, par simple induction, car ce n'est même plus une question de déduction, mais d'induction, que l'on comprenne que dans cette création, il y a l'homme qui a été engendré à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si dès le départ, il y a une non-appropriation, une non-compréhension de la logique initiale, qui permet de resituer Dieu dans sa place de créateur, de restituer à Dieu sa place d'éternel et d'infini, de lui donner ce qu'il mérite en termes de respectabilité et de souveraineté. Si dès le départ, la question n'est pas attaquée ainsi, il y a une flottabilité qui s'installe de par la faiblesse fondationnelle qui va finir par se répercuter sur l'ensemble de l'architecture du vivant qui concerne l'individu. Ça doit être fixé dans vos esprits. Comprendre que Dieu est le créateur de l'univers visible et invisible et que ce gigantisme universel que l'on voit est le fruit d'une puissance, d'une autorité et de ressources qui dépassent largement, totalement, ce que la pensée humaine peut comprendre. C'est de l'humilité, c'est de l'honnêteté, c'est du réalisme. Sans cette base, on a de très fortes chances d'avoir un effondrement systémique, tôt ou tard. Si tant il est que l'on puisse admettre notre vie comme étant un microsystème. Dans l'homme, pour que sa vie ait un sens, l'être humain doit asseoir dans son intimité une conscience limpide de la place de Dieu dans l'univers. Vous verrez plus tard jusqu'à quel point cela rend service d'être conscient de ce que Dieu soit le Tout-Puissant. Car plus tard, vous vous rendrez compte que cette faiblesse initiale va se répercuter sur la foi. Cette faiblesse initiale va se répercuter sur le processus de proximisation d'avec Christ. Cette faiblesse initiale va se répercuter sur l'amour que l'on doit développer vis-à-vis de Jésus-Christ. Cette faiblesse initiale va aller même jusqu'à se répercuter sur la capacité que nous avons à apprendre la parole de Dieu, à la comprendre et à s'en approprier jusque y compris dans ses fondements spirituels. La fondation est donc là. Reconnaître à Dieu sa place de Dieu. Ça semblait être banal. Ça semblait être peu important. Mais en vérité, ne pas reconnaître à Dieu sa place de Dieu, est un drame pour l'espèce humaine. Les êtres humains ont tendance à diviniser, à déifier même des êtres qui ne méritent en rien la place de Dieu. On pourrait prendre l'approche autrement en disant qu'il y a un commandement qui dit de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi. » Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Mais nous ne parlons pas du commandement. Nous voulons appeler le bon sens. Nous voulons solliciter, stimuler votre bon sens. Pour que vous rendiez compte intimement, que vous vous rendiez vraiment compte intimement que ce n'est pas banal, ce n'est pas accessoire, ce n'est pas superfétatoire de donner à Dieu sa place de Dieu, de donner à l'Éternel des armées sa place de Créateur. La conscience que vous devez avoir de ce que Dieu soit le Créateur, que l'Éternel des armées soit le Tout-Puissant, elle doit être pleine. Vous devez être saturé de cette conscience. Car la faiblesse que vous développerez servira contre vous. Au niveau intra-individuel, c'est-à-dire en vous, et aussi au niveau inter-individuel, c'est-à-dire dans les rapports à autrui. Si nous avons passé ce stade, il nous faut d'un point de vue structurel résoudre la question de l'identité, de votre identité, de l'identité de l'humain. S'il est écrit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et que l'on veuille entrer dans la dimension révélée de l'enseignement, on dira que l'homme a été engendré par Dieu et non créé. Il est fils de Dieu, génétiquement. Et comme Dieu est spirituel, l'homme est spirituel. Entendez bien. Ah! comme Dieu est spirituel, l'homme est spirituel. Comme Dieu est esprit, l'homme est esprit. Si vous n'entendez pas la langue que nous sommes en train de vous parler, vous aurez de gros problèmes. Cela signifie que votre corps, ce n'est pas vous, c'est un vêtement qui est adapté à l'endroit où vous avez été envoyé en formation, à un examen, la planète Terre. Vous êtes esprit. C'est très important d'intégrer cela et de comprendre cela, car c'est à partir de là que l'on comprend la démarche solutionnelle qui est peu enseignée. Si l'homme est esprit et il est fils de Dieu, c'est que les problèmes de l'homme, comme les solutions de l'homme, sont d'abord et surtout spirituels. C'est une plateforme qui, quand on la quitte, déclenche désordre, désorganisation, chaos, amnésie, pathologie de tout type. Je répète, comme Dieu est esprit et l'homme est fils de Dieu, les problèmes et les solutions de l'homme sont d'abord spirituels. Nous n'avons pas encore attaqué de façon satisfaisante cette question d'identité. Qui est Dieu? C'est le roi des rois. Grand R et grand R. Il est le roi des rois. Il commande plusieurs rois. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller au ciel, ils vont voir que Dieu est le roi des rois. Il y a plein de rois au ciel. Et aussi sur terre, comme dans d'autres univers, Dieu a établi des rois. Donc, il est le roi des rois dans plusieurs univers, y compris la Terre, dans plusieurs planètes. Alors, qu'est-ce que cela signifie? L'Éternel des armées est le roi des rois. Vous êtes son fils. Un fils de roi est un prince. Vous êtes sa fille. Une fille de roi est une princesse. D'un point de vue de la génétique, de la structure configurationnelle naturelle, vous jouissez d'une royauté instantanée. Avant même que vous ayez pu vous poser des questions, vous jouissez de la royauté, du fait de votre père. C'est de cela dont il s'agit. C'est de cela dont il s'agit. Vous êtes fils de roi, fille de roi, donc à votre naissance, vous êtes déjà princesse, enfant légitime. C'est la génétique. On va regarder les gènes, on va voir que c'est votre père. Mais comme il y a une histoire compliquée derrière avec le péché originel, vous devez passer les examens à travers les processus de repentance, de conversion et de persévérance. C'est ainsi donc que votre royauté est rétablie, telle qu'à l'origine. C'était extrêmement important que Jésus-Christ verse son sang pour racheter l'humanité. Sinon, le process cesse. Le processus et le process du rétablissement de cette royauté serait très compliqué. Parce que le sacrifice de l'agneau a permis une reconnexion. Mais avant la reconnexion, il fallait d'abord un effacement du péché originel qui était un blocage majeur dans la relation entre Dieu et les hommes. Le fait que le Christ soit venu se positionner comme étant le chemin, la vérité, la vie, la lumière du monde, le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes, a facilité l'accès à Dieu. Les hommes n'ont donc plus à te demander comment on fait pour accéder à Dieu. Ils passent par Dieu fait homme. et par personne d'autre. Ni par sa mère, ni par ses employés, ni par ses apôtres. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Car lui-même est d'abord esprit. Dieu s'est rendu accessible à travers Christ et à travers l'Esprit Saint. Lorsque vous entendez l'Esprit Saint lui-même parler de Christ, il ne dit pas, moi l'Esprit Saint, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit Jésus-Christ. L'Esprit Saint lui-même rappelle à l'homme, à l'humain, à l'adorateur, au croyant, que c'est Jésus-Christ par qui il faut passer. Donc, grâce à ce chemin qui a été soulevé, qui a été créé, il y a la connexion qui est possible pour toute personne qui cherche véritablement la face de Dieu. Chercher véritablement la face de Dieu, c'est chercher véritablement la face de Christ. Pas d'un pasteur, pas d'un docteur, pas d'un évangéliste. Pas d'un prophète, pas d'un apôtre. Vous ne devez chercher que la face de Christ. Et cette recherche, cette quête est essentiellement et prioritairement spirituelle. Cette rencontre est essentiellement et prioritairement spirituelle. La parole de Dieu dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent véritablement. Donc si véritablement d'un seul cœur vous cherchez Dieu, il s'arrangera à ce que vous le trouviez. On a donc résolu la question de la reconnexion en touchant aussi à la question de l'identité. Vous êtes donc des fils de Dieu, des filles de Dieu. Donc naturellement, comme dans un cadre de relation amoureuse, familiale, normale, vous bénéficiez de ce que votre père vous aime. Est-ce qu'un enfant naît avec la logique de ce que son père qui l'a engendré ne l'aime pas? Non. Il jouit des privilèges de cet amour. Et plus il en a conscience, même parfois, plus il est capricieux. Or, quand vous grandissez, et vous arrivez à certains niveaux de prise de conscience, vous découvrez que ce père-là est un père exigeant. Il est déjà excellentissime. Il a la majesté de toutes les majestés. Il est le Dieu de l'excellence. Et comme il a prévu initialement que le programme soit un programme de bonheur éternel, dû au rapprochement entre lui et vous, vous devez donc comprendre, maintenant que vous avez pris conscience de la configuration, au niveau identitaire, fils et fille de Dieu, au niveau configurationnel, Dieu, on doit lui donner sa place, et nous, on doit accepter la place de pot face au potier. Entre donc en vous l'exigence de performance. Mais il y a des obstacles à cette exigence de performance. Dès qu'on découvre que Dieu ne fait acception de personne, allez lire Pierre, il en parle. Dès qu'on découvre que Dieu ne fait acception de personne, on se retrouve quand même dans une configuration à laquelle on ne s'attendait pas. On découvre que, comme Dieu ne fait acception de personne, ce n'est pas parce qu'on est son enfant qu'on a le droit d'être médiocre. On a l'obligation, au contraire, pour être digne d'être son enfant, on a l'obligation d'être performant. Être performant. Vous pourrez lire ça dans Actes 10, le verset 34. Romains 2, le verset 11. Dieu ne fait acception de personne. Dans Actes 10, verset 34 et Romains 2, le verset 11. Donc là où on est obligé d'être performant devant Dieu. On regarde comment ça se passe au ciel. On se rend compte que tous les anges de l'Éternel sont traités selon le mérite, sont gradés selon le mérite. Il n'y a pas de tricherie possible. Ces anges sont aussi les fils de Dieu, les filles de Dieu. Même si d'un point de vue structurel, ils n'ont pas de sexe, ils ont des orientations sexuelles. Il y a des anges, tu regardes, tu vois qu'il a une orientation féminine, sa voix est féminine, son apparence est féminine, et tu vois les autres, tu vois qu'ils ont une apparence masculine. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de sexe qu'ils ne sont pas des hommes ou des femmes, dans l'entendement qu'on doit s'en faire, car l'affaire qu'on appelle le sexe n'est pas d'abord une affaire matérielle, mais une affaire spirituelle. C'est une affaire d'identité spirituelle, le sexe. Les scientifiques païens, les scientifiques athées, croient que le sexe est une affaire biologique. Les organes, la configuration du corps, les proportions, les mensurations, tout ça, non. Le sexe est d'abord et surtout une question d'identité spirituelle. Les anges à orientation féminine sont bien différents et bien conçus différemment des anges à orientation masculine et ils n'ont pas les mêmes dépôts. Regardez-les, vous verrez de quoi je parle. Vous n'avez pas les dons de prophétie à titre ornemental. C'est une chose qui est d'une netteté indiscutable quand on observe le royaume des cieux. Les anges à orientation féminine réagissent comme les femmes, totalement. Ce sont des femmes. Les anges à orientation masculine réagissent comme des hommes. Ce sont des hommes. Ce n'est pas l'organe de reproduction masculin ou l'organe de reproduction féminin qui fait un homme ou une femme. C'est d'abord l'esprit qu'il y a derrière. L'identité attribuée par le Créateur à son enfant. Bien évidemment, les esprits tordus pourraient peut-être se tenir sur ce que j'ai dit là pour dire que mais voilà, c'est clair. Ça permet de comprendre que oui, effectivement, oui, on peut avoir un homme dans le corps d'une femme, une femme dans le corps d'un homme. Non, non, non. C'est faux. Tout homme qui se comporte comme une femme, toute femme qui se comporte comme un homme a été pervertie par le monde des ténèbres. Il existe un vaste répertoire d'incantations que le monde des ténèbres fait pour pervertir l'orientation sexuelle des êtres humains et modifier donc leur orientation sexuelle par rapport à comment est-ce qu'ils sont venus sur terre et quel programme le Père éternel avait sur eux. Sachez-le donc aujourd'hui. Quand vous voyez un être humain qui a une orientation homosexuelle, c'est impossible sans que derrière, il y ait d'abord eu un travail d'incantation pour le pervertir, pour lui donner un sexe qui n'est pas le sien. Dieu ne crée rien de perverti, n'envoie rien sur terre de perverti. Ce sont les démons et les hommes qui pervertissent la nature sainte. Et même saine, initiale. Dieu n'envoie pas un être humain sur terre en mettant un homme dans le corps d'une femme, ou en mettant une femme dans le corps d'un homme. J'ai ouvert cette parenthèse pour que ce soit clair et limpide. Le monde des ténèbres possède cette technologie depuis longtemps, qui consiste à pervertir les enfants. Et il peut même le faire à tout âge, changer le sexe de quelqu'un, ou lui donner deux sexes. Spirituellement, ça se fait tous les jours que Dieu a créé. Et nous combattons cela. Ceci étant dit, il est donc clair que la question de l'identité est réglée si nous avons bien compris que nous sommes des fils de roi. Le royaume ne fonctionne pas avec la médiocre. Le royaume ne fonctionne pas avec la médiocrité. Un royaume de lumière, notamment le royaume des cieux, ne fonctionne qu'à travers l'excellence. Dieu lui-même est un Dieu travailleur. Quand on prend la Genèse, on voit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Mais c'est une symbolique en réalité. Dieu travaille énormément. La terre est une fabrication récente. 4 milliards et demi d'années, c'est un bébé par rapport aux autres planètes où le Père éternel a le commandement depuis longtemps. Alors, l'humain qui sait qu'il est un fils de Dieu, qu'il a compris qu'il est une création, une créature, il n'est que le pot face au potier. Qui a compris que sa vie n'a de sens que s'il reconnaît Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Qui a donc la grâce d'arriver dans un endroit où Dieu agit, commence à vivre les délivrances, les guérisons, les restaurations, les transformations dites dues à des délivrances approfondies, à des guérisons approfondies. Il vit la présence de Dieu. Il témoigne à petite, moyenne ou grande échelle. Arrive donc, quoi qu'il en soit, à palper la preuve, s'il est seulement honnête, que Christ l'aime. Il voit la différence entre sa vie sans Jésus-Christ et sa vie avec Jésus-Christ. Car avec Jésus-Christ, il y a une certaine catégorie de problèmes qui disparaissent. Même quand quelqu'un est de très mauvaise foi, il ne peut pas nier qu'il y a une certaine catégorie de problèmes qui ont disparu. Il arrive donc à la certitude palpable, rationnelle, de ce que Dieu l'aime. C'est là où on commence à réfléchir sur le sens, l'essence, la quinte essence de la démarche qu'il nous faut asseoir. Désormais, ayant conscience d'être aimé. La parole de Dieu dit que aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements. C'est-à-dire que aimer Dieu, c'est lui obéir. Vous qui êtes juste des humains, qui regardez les choses de façon matérielle, est-il juste de ne pas aimer celui qui vous aime? Si quelqu'un même qui garde ma parole et qui la met en pratique, celui qui m'aime, qui garde mes commandements, vous avez par exemple Jean 14, 23. Il y a Jean 14, 23 et Jean 14, 21. Jean 14, 21 qui en parle. Il y a plein d'autres passages. Alors, vous devez faire le point. Regardez votre vie. Réalisez que vous n'êtes vivant que parce que l'Éternel des armées a voulu que vous restiez vivant car il n'avait pas encore dit le dernier mot dans votre vie et il ne vous avait pas encore prouvé qu'il est le Tout-Puissant. Et qu'il est capable de résoudre des problèmes que jamais personne n'a résolus dans vos vies. Des maladies ont disparu dans vos corps. Certaines humiliations ont disparu, etc. Mais vos délivrances ne sont qu'en leur début, car le mal qui vous a été fait est immense. Vous faites le point. Vous regardez la manière dont le Christ travaille pour vous. Inlassable. Vous faites le point. Vous regardez la disponibilité de l'Esprit Saint. Vous faites le point. Vous regardez la disponibilité des anges de l'Éternel et vous vous dites, waouh, je n'avais pas réalisé, mais Christ même, Dieu même, je suis à un endroit où Dieu lui-même agit. Même si je ne suis pas satisfait, quelles que soient les plaintes que j'ai, je ne peux pas nier que ici là, j'ai des preuves matérielles que Dieu m'aime, parce qu'il agit dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant que je me sais aimé par Christ. Maintenant que je me sais aimé, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que c'est une relation entre père et fils. Dans cette relation de père à fils, Je sais que c'est une affaire d'obéissance, de soumission. Si je veux changer de démarche, je vais voir ça dans la relation entre l'époux et l'épouse. Tout ça est biblique. Que je veuille être dans la relation père-fils ou la relation époux à épouse, je suis dans la bonne relation. Je suis vraiment devant Dieu et il m'aime. Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Non pas pour satisfaire mes calculs, mais pour que celui-là qui m'aime gratuitement, totalement, soit content. Et que parce qu'il est content, moi-même je tire plaisir à ce moment de partage. La parole de Dieu parle dans Deutéronome. Deutéronome 28, de 1 à 14, du stock extraordinaire de bénédictions rattachées à l'obéissance. Jésus-Christ lui-même, en tant que modèle, car c'est de ça dont il s'agit, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il dit « Ma nourriture est d'accomplir la volonté de mon Père ». Il montre le chemin à travers l'accomplissement de la volonté de son Père, qui en d'autres autre chose, on peut appeler ça comment? Ce n'est autre chose que l'obéissance et la soumission. Il a accepté de mourir pour que les plans de son Père s'accomplissent. Le plan de rachat de l'humanité. Il a accepté toutes les humiliations. C'est-à-dire que sur la base de ce schéma, nous-mêmes, on doit prendre Christ pour exemple. Non pas pour mourir matériellement, mais pour que le vieil homme meure. Pour que je sois débarrassé des vieux vêtements et que je sois récompensé par le nettoyage, la sanctification, la purification et l'acquisition totale de ma royauté. N'oublions pas qu'au départ, enseignement révélé, on est dans le Réma. Dieu a engendré l'homme afin que père et fils, rapprochés, se comblent mutuellement de bonheur éternel. Dans cette logique rématique, nous savons que cela implique que l'homme obéisse et se soumette à Dieu. Et la joie qu'il procure à Dieu en obéissant, en se soumettant à lui, fait que Dieu lui donne accès à son héritage. Lui aussi, il est heureux de par le fait qu'on lui donne accès à un héritage qu'il a mérité. Aucun enfant de Dieu ne peut prendre la part de l'autre. Aucun. Car, dans le royaume des cieux, il y a de l'abondance pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, il suffit seulement de travailler pour avoir sa part. Honnêtement, proprement, loyalement. Si quelqu'un se sait aimé par Christ, et qu'il se rappelle que Jésus-Christ, c'est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour racheter l'humanité. Il doit faire les raccords, les correspondances. Jésus-Christ même, c'est-à-dire Dieu lui-même même. C'est le même Dieu-là qui est le Tout-Puissant, qui est l'instoppable, l'incomparable, l'invincible, qui est la source de toute richesse, de toute beauté, de toute solution. Si j'ai donc Christ, c'est que j'ai Dieu. Si j'aime Christ, c'est que j'aime Dieu. Si je me soumets à Christ, c'est que je me suis soumis à Dieu. Si je fais la volonté de Christ, c'est que j'ai fait la volonté de Dieu. Si je crois en Christ, je serai sauvé. Si j'aime Christ, j'aurai la vie éternelle. Si je m'abandonne à Christ, je connaîtrai le salut. Puisque Christ est avec moi, aucun malheur ne peut m'arriver. Je connais les 9 promesses de Jésus-Christ. J'ai lu ça dans le livre Vie affective et performance socio-professionnelle ou dans le site internet www.redesna.org, onglet révélation. Je connais les 9 promesses de Jésus-Christ. Je sais que la parole de Dieu est vivante. Elle est agissante. Je sais que la parole de Dieu, c'est Dieu, puisque Jean 1:1 le dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc je sais que ce qui est écrit est vrai. Je sais que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit, il accomplit. Ça veut dire qu'il ne reste qu'une chose, une seule chose à moi, à faire et à vivre. C'est de tout faire pour que Dieu soit content, pour que le Christ soit satisfait. Partant de là, je n'ai même plus besoin de savoir ce qui va se passer. Car la seule préoccupation que j'ai à plaire à Christ suffira largement à m'accorder au-delà de tout ce que je peux espérer. Tout ce dont j'ai rêvé et tout ce que je n'ai jamais demandé. Si j'ai donc compris que la parole de Dieu est vivante, je sais qu'il est écrit dans Proverbe 8, versets 17 à 21, Dieu dit que j'aime ceux qui m'aiment. Ah, d'accord. Mais moi, je me sais déjà aimé. J'ai le privilège qu'il m'aime déjà. Donc, il faut juste que je fasse, lui renvoie l'ascenseur en l'aimant plus, comme il le mérite. Quand je regarde ce qu'il fait pour moi, ce qu'il a fait pour mes frères, quand j'entends les témoignages et tout ça, mais il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué, il mérite d'être aimé, il mérite qu'on lui fasse confiance, c'est-à-dire la foi. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Je dois agir, parler, penser comme celui qui se sait aimé. Je n'ai pas à me poser un certain nombre de questions. J'ai le privilège d'avoir déjà des certitudes. Je me sais aimé. Et je sais que celui qui m'aime est entier. Celui qui m'aime est vérité. Celui qui m'aime est solution. Celui qui m'aime est le chemin. Celui qui m'aime est la vie. Si tu le connais, tu connais la vie. Si tu l'as, tu as la vie. Mais je reste seulement à cet endroit. C'est là où, apparaît quelque chose de formidable. C'est la passerelle qui doit exister et qu'on est obligé de fabriquer entre la conviction et l'action. Il est démontré dans les sciences humaines, notamment en psychologie, que quand quelqu'un est convaincu, ça ne suffit pas à ce qu'il agisse. Pour qu'un être humain agisse, il faut qu'il pose l'acte de décision. S'il ne pose pas en lui l'acte de décision, il ne passera jamais à l'acte. Car sans déclencheur, il aura beau parler. Il aura beau raconter tout ce qu'il dit. Dieu vous attend dans les actes. Il y a une réalité. Jacques le dit, l'apôtre Jacques le dit. La foi sans les œuvres est morte. Lisez Jacques 2. À quoi vous sert-il d'avoir la foi sans les œuvres? Autant mieux montrer les actes, les œuvres, et démontrer par les œuvres la foi. Si vous dites aimer Dieu, et que vous ne posez pas d'actes, vous n'êtes pas intéressant, même si vous vous savez aimer. Vous serez juste un bavard. En d'autres termes, si vous vous savez aimer, c'est parce que Dieu a posé des actes. Si vous devez maintenant réagir comme celui qui se sait aimer, ce n'est qu'à travers les actes. Comment vous avez reconnu l'amour de Dieu? Par des actes. Et vous voulez prouver l'amour vis-à-vis de Dieu sans les actes. C'est injuste. Ceci vient violer les principes du contrat à caractère synalarmatique entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'humain. Ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes relève de la passion. Jusqu'ici, j'ai essayé de vous construire une structure intellectuelle qui va aider à comprendre les jeux, les enjeux. Mais il y a quelque chose que vous devez apprendre qui a un caractère passionnel que seul l'amour peut ouvrir, allumer. Vous connaissez le préalable déjà, toujours dans la parole de Dieu, qui veut que Dieu ne veuille pas les gens tièdes ou froids. Vous devez être chaud, brûlant, chaud, bouillant. Vous connaissez ce principe. Ne soyez ni froid, ni tiède. Soyez chaud. Vous le savez. Cela signifie que la relation à Dieu ne se passe pas dans la froideur. Elle se passe essentiellement et uniquement dans la chaleur. Si la relation se passe dans la tiédeur, ça n'intéresse pas Dieu. Apocalypse 3, le verset 16 en parle. Apocalypse 3, 16, je passe. Dieu même. Je connais sa parole. Je connais les promesses qui sont rattachées à l'obéissance, à la soumission. J'ai des preuves qu'il m'aime. Il m'a sorti des situations insolvables. Comment dois-je me comporter à partir de là? Que doit déclencher chez un être humain la conscience d'être aimé? Basique. Basique. D'abord le confort, le bien-être. Une sensation de bien-être, de confort. Mais qu'est-ce que l'on a comme responsabilité par rapport à cela? L'obéissance est une affaire de discipline personnelle. La soumission est une question de discipline personnelle. Et nous devons remporter la victoire sur les désirs de la chair. Pour être des personnes qu'on ne voit, qu'on ne reconnaît qu'à travers les œuvres de l'Esprit et les manifestations de l'Esprit Saint. Alors, s'engage cette phase magistrale de déploiement de la conscience de celui qui se sait aimé par Christ. Nous n'allons pas vous donner cette partie sans vous donner une clé. Celui qui se sait aimé par Christ ne peut pas être puissant dans le déploiement de cette conscience, ne peut pas entrer dans une relation fusionnelle avec l'Esprit Saint, avec Jésus-Christ, tant qu'il n'a pas une hyper-conscience de la toute-puissance de Dieu, tant qu'il n'a pas une hyper-conscience de la justice de Dieu. Vous devez avoir une très grande conscience de ce que Dieu est juste. Si vous décrédibilisez Dieu intimement et vous légitimez en vous intimement toute accusation vis-à-vis de Dieu, vous avez perdu. Il y a maintenant une très grande conscience de n'être qu'un être humain. Je reprends. L'adorateur doit avoir une très grande conscience de n'être qu'un être humain, de n'être qu'une créature, de n'être qu'une fabrication qui fonctionne de manière performante seulement en la présence du fabricant et seulement selon les codes du fabricant. C'est le fabricant qui a le mode d'emploi et qui le donne à travers sa parole. Toute utilisation de la fabrication qui sort du schéma, du mode d'emploi que le fabricant a conçu, toute utilisation qui sort de ce mode d'emploi est une utilisation de destruction. Tu as le manuel qu'on a donné. Tu es une fabrication. Tu n'es qu'une créature. Tu es juste un pot. Tu dois donc asseoir une hyper-conscience de n'être qu'une créature, de n'être qu'un être humain, de n'être qu'un instrument de Dieu. Tout ce que je vais vous dire après est impossible à appliquer tant que vous n'avez pas une très haute conscience de n'être qu'un instrument de Dieu. L'inconsistance de cette conscience est une faiblesse configurationnelle qui aura des impacts au niveau opérationnel dans le quotidien, passant de l'invisible au visible, du subconscient au conscient et même dans l'inconscient. Si j'ai une chose à vous dire aujourd'hui, c'est que votre vie en Jésus-Christ ne connaîtra une accélération majeure que quand vous allez vous remplir de la conscience totale de n'être que des instruments. Cela signifie que le jeu de l'humilité, l'urgence de l'humilité, est une affaire de réalisme absolu. Non pas seulement de combat idéologique, d'approche philosophique ou de perception éthique. C'est une affaire de réalisme absolu. Celui qui n'a pas une haute conscience de n'être qu'un instrument que Dieu peut utiliser comme il veut, que le propriétaire peut utiliser comme il veut, il ne lui est pas possible d'utiliser les clés que nous allons donner ici. Il ne lui est pas possible de connaître le royaume des cieux. Il ne lui est pas possible de connaître le paradis. Il ne lui est pas possible d'avoir le salut. Il ne lui est pas possible de connaître le bonheur. Oui, lorsque la parole de Dieu dit dans le psaume 37 en son verset 4, « Faites de l'Éternel tes délices. » Il te donnera les, il comblera les désirs de ton cœur. Ou quand il encore dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Il y a un préalable fondamental qui permet de faire cela. C'est qu'il faut se laisser tomber totalement. Or, il n'est pas possible de se laisser totalement tomber dans les bras du Christ Si l'on veut, à quelque niveau que ce soit, avoir le contrôle des événements, c'est une erreur grave qui hante l'humanité de croire que l'intelligence donne à l'homme le droit de vouloir faire le travail de Dieu dans sa propre vie. Impossible. C'est une erreur. Votre ordinateur a l'écran rempli de erreur. C'est écrit partout. Il n'y a que ça écrit. Parce que vous n'avez pas compris que le jeu relationnel entre le créateur et la créature est un jeu dans lequel Dieu doit avoir le contrôle sur sa créature qui est vous. Le potier doit avoir le contrôle sur le pot qui est vous. Tant que le pot veut avoir le contrôle, il est perdant. L'intelligence que l'être humain a reçue n'a sens, n'est pur que dans le cadre d'une soumission totale à la volonté de Jésus-Christ. Hors de ce cadre, elle est pervertie. J'insiste à vous le dire, alors que l'ensemble des enseignements que vous avez reçus de toute votre vie vous ont amené à croire que l'intelligence vous amène à avoir le contrôle, je vous dis aujourd'hui que l'intelligence elle-même n'est qu'un sous-produit de la fabrication qu'est l'homme, dont l'intelligence humaine ne peut pas permettre à l'homme d'avoir le contrôle sur sa vie. Celui qui doit avoir le contrôle sur sa vie, c'est Dieu. L'intelligence doit être soumise à la volonté de Dieu. Et ce n'est là qu'elle prend ce que, ce n'est que là qu'elle prend sens. Tout être humain qui refuse de laisser son intelligence se soumettre à la volonté de Dieu ne peut qu'aller à la perdition. Vous connaissez la structure schématique que nous vous avons faite comparativement à 2 Thessaloniciens 5, verset 23. Ou 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où l'être humain tout entier est esprit, âme et corps. On a parlé de l'âme, dans laquelle il y a l'intelligence, il y a les émotions, il y a la volonté. L'intelligence et la volonté de l'être humain, qui sont des composantes de l'âme, doivent absolument être soumis, doivent se laisser guider, doivent se laisser cadrer, soit se laisser contrôler par la volonté de Dieu. C'est l'une des marques incontestables qui caractérise un adorateur. Sa volonté et son intelligence se préoccupent d'être soumis à la volonté de Dieu. Sans ce levier, il est impossible de connaître le royaume des cieux. Il est impossible de comprendre la marche avec Jésus-Christ. Quels que soient les diplômes que vous avez, quelle que soit l'expérience que vous avez, quelle que soit l'expertise que vous avez, elles ne peuvent, et je vais dire « ils », parce qu'il y a un masculin là-bas, un diplôme, ils ne peuvent être utilisés au mieux de ce qui a été programmé, car vous n'êtes qu'un programme. Que lorsque vous laissez à Dieu la place, la première place, c'est-à-dire celui qui dirige votre vie. Vous ne pouvez pas diriger votre vie à la place de Dieu. Celui qui la dirige, c'est Dieu. Votre intelligence n'est qu'un instrument, elle n'est qu'un outil, elle n'est qu'un prétexte, elle n'est qu'un engin, elle n'est qu'un programme qu'on peut améliorer, qu'on peut parfumer, qu'on peut variabiliser. Votre intelligence n'est pas l'outil de contrôle de votre vie. C'est Dieu qui est l'outil de contrôle de votre vie. Je martèle, j'insiste sur ce point, car c'est un point de captivité pour l'espèce humaine. Les hommes croient qu'ils peuvent avoir le contrôle parce qu'ils sont intelligents. C'est pas juste de la stupidité. C'est un élan suicidaire. Dès que l'homme croit qu'il peut avoir le contrôle en utilisant son intelligence, ça le rend malhonnête, ça le rend aveugle, ça le rend sourd à la parole de Dieu. Et il se retrouve dans le schéma qui veut que pour l'homme animal, tout ce qui vient de Dieu est folie. Vous êtes délivré aujourd'hui de cette croyance selon laquelle votre intelligence a préséance sur le fait que Dieu lui-même doive diriger votre vie. Ne donnez pas à votre intelligence plus d'espace qu'il n'en faut. Ne donnez pas à votre intelligence plus de droits qu'il n'en faut. Celui qui a des droits dans votre vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui doit décider de guider le véhicule de votre vie, c'est Christ. Pas votre intelligence. Votre intelligence n'est qu'un sous-produit structurel, configurationnel et même opérationnel de votre vie, de votre être. C'est Dieu qui commande votre vie. Et c'est Christ qui est Dieu fait homme qui commande votre vie. Et si vous comprenez la clé que je suis en train de vous remettre de façon pure, vive, vivifiante, tout peut changer en une nuit dans votre vie. Tout va changer si vous avez compris ça. L'intelligence n'est qu'une sous-composante de l'être humain. Ce n'est qu'un don parmi tant de dons. Laissez à Jésus-Christ la première place. Totalement. Mettez votre intelligence au service de la soumission, de l'obéissance à l'alignement de la marche avec Dieu. Votre intelligence doit se préoccuper d'être encadrée par la volonté de Dieu. Votre existence n'a de sens que quand elle est encadrée par la volonté de Dieu. Vos dons n'ont de sens que quand ils sont encadrés par la volonté de Dieu. Vous avez énormément de dons. Le don de l'intelligence est seulement un seul don. Les intelligences sont multiples. Il y a une variabilisation des intelligences. Il y a des types d'intelligence, il y a des niveaux d'intelligence. Vous ne pouvez pas croire que votre intelligence peut contrôler votre vie parce que vous avez reçu le don de l'intelligence. Non. Donnez à Dieu, à Christ, la première place dans votre vie et que votre intelligence suive, soumise, obéissante, non résistante. Quand l'intelligence a compris la place qu'elle occupe, elle comprend que Dieu lui-même ne doit pas être intellectualisé. Elle comprend qu'au-dessus d'elle, il y a l'esprit que Dieu a donné à l'homme, dans lequel on trouve l'intuition, la capacité à avoir des informations sans investigation, dans lequel on trouve la conscience, qui doit être la conscience d'avoir Dieu comme Père, dans lequel on trouve la communication est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, avec Christ. Regardez où se trouve l'intelligence. Dans le deuxième tiers des compartiments de l'être humain, qui vous a dit d'aller la mettre au-dessus? Elle est seulement dans l'âme. L'être humain, vous avez vu dans Thessaloniciens 5, le verset 23, l'être humain est esprit, âme et corps. Comment voulez-vous prendre dans un compartiment de l'âme une portion et vouloir lui donner le dessus sur tout? L'intelligence renouvelée dont parle l'apôtre Paul, le renouvellement de l'intelligence dont il parle, y compris dans son propos magistral qu'il tient dans 2 Corinthiens, sont des éléments qui ne peuvent être perçus par l'homme animal. C'est des éléments qui sont impensables pour l'homme animal, irrecevables pour l'homme animal. Seul le cœur de celui qui se sait aimé par Christ peut arriver à un tel niveau d'intellection à un tel niveau d'interprétation, à un tel niveau de perception, à un tel niveau de réception, parce qu'il y a des niveaux de réception chez l'apôtre Paul qui sont formidables. C'est un discours de l'esprit qui n'est pas un discours de la raison païenne. C'est un discours de l'obéissant qui n'est pas un discours de l'homme animal. C'est un discours de sagesse qui est la sagesse de Dieu. Quand on entend ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 6 à pratiquement 16, on se rend compte que seul celui qui se sait aimé par Christ peut tenir un tel propos. Je dis seul celui qui se sait aimé par Christ peut arriver à un tel niveau de réception, de révélation, d'intellection, de perception, de compréhension, de décodage et ou d'encodage. L'apôtre Paul était arrivé à un haut niveau de conscience de n'être qu'un instrument. Et c'est d'ailleurs cela qui pourrait expliquer qu'il savait et il n'avait pas résisté qu'en allant à Rome, il allait mourir. Il allait accomplir la volonté du Christ, pas la sienne. Mais vous êtes de la génération où les prophètes, on ne les tue plus. Les apôtres, on ne les tue plus. Les évangélistes, on ne les tue plus. Mais il faut que le vieil homme meure. La sagesse de l'esprit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce prouvent que nous nous savons aimer. C'est ça que ça veut dire. C'est écrit, c'est encodé. Dieu nous a donné des choses par sa grâce. Donc nous nous savons aimer par Christ. Je continue la lecture. Et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas ces choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je répète, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Incroyable. Un homme dit qu'il a la pensée de Christ. Vous ne comprenez pas que là, ce n'est plus son intelligence qui se déploie. Il a un tel niveau de réception que c'est avec assurance qu'il vous transmet ce qui lui vient du Père éternel. Mais pour arriver à ça, il faut avoir soumis l'intelligence à la volonté de Dieu, soumis la volonté même à la volonté de Dieu, la volonté de l'homme au niveau intra-individuel, soumis même nos émotions à la volonté de Dieu. Je suis en train d'aller à un virage maintenant où vous ne m'attendez pas. Parce qu'il faut faire cette démonstration serrée pour que combattre le péché prenne sens. Je ne vais pas venir vous dire ici, comme Hébreux 12, verset 4 le dit, que vous n'avez pas encore combattu le péché jusqu'au sang. J'aime mieux à vous dire. Je ne suis pas ici pour vous enseigner la peur du péché. Je suis là pour vous enseigner l'amour. La puissance de l'amour. Vous connaissez ce passage, puisqu'on vous l'a déjà donné plusieurs fois. Mais je vais vous dire, au-delà de ce passage, au-delà, il y a la richesse immense, immense, à laquelle vous devez avoir accès. Pourquoi vous limitez-vous seulement à combattre le péché alors qu'il y a d'autres phases de vie où combattre le péché n'est même plus un problème? Car on est trempé, inondé, immergé de façon totale dans le royaume des cieux et dans la beauté de la sainteté. Oui, Hébreux 12, verset 4 le dit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La question ici n'est plus de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché, mais c'est de prendre conscience des jeux et des enjeux, de ce que vous ayez enceint par la grâce de Dieu, constater que vous êtes aimé par Christ. Celui qui a la grâce de constater qu'il est aimé ne peut pas se permettre un tel niveau de malhonnêteté, de nier cela et de ne pas voir quelles sont les incidences et les conséquences qui y sont rattachées. Et nous vous avons rappelé que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je viens de vous lire Hébreux 4, le verset 12 à 13. Je viens de vous lire Hébreux 4, le verset 12 à 13. C'est formidable. Comment vous vivez sans avoir conscience de ce genre de choses? Nous sommes donc d'accord sur certains passages bibliques, puisque vous-même vous pouvez les retrouver. On a suivi une architecture très technique. On est arrivé au stade où on a compris que l'intelligence humaine doit être soumise à la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui dirige la vie de l'homme. C'est Dieu, c'est Christ qui est le maître de notre vie. C'est Christ qui est notre conducteur. C'est lui qui est le directeur de notre vie. Je vais prendre une bifurcation. Vous êtes mes enfants. Vous avez droit à de petits cadeaux. Démonstration. Les êtres humains que nous sommes, que vous êtes, ont beaucoup souffert et souffrent beaucoup. Qu'il me soit permis d'entrer dans une logique constatationnelle qui veut que 99,99% des êtres humains qui viennent à Christ arrivent à lui étant déjà amochés, désubstantialisés, déstructurés, démembrés, mutilés. Si ce n'est matériellement, spirituellement, perverti, dévêtu, dépouillé, désorienté, démotivé. L'être humain, quand il arrive à Dieu, enfin, quand il rencontre Christ, enfin, a très souvent un besoin de justice. Certains ont un besoin de vengeance. Mais je vais vous dire un secret aujourd'hui. La majeure partie des êtres humains qui ont été anéantis par le monde des ténèbres, parce qu'à l'origine, ils sont des fils de Dieu, même s'ils ne le comprennent pas, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a un élément que le monde des ténèbres n'a pas souvent réussi à tuer. Surtout pour ceux qui ont refusé de se soumettre au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'a très souvent pas réussi à tuer en eux la dignité. La dignité de roi et de reine leur est restée. De fils de roi et de fille de roi leur est restée. Alors ils ont une très mauvaise façon de gérer et de réagir face à cet état de fait. Beaucoup d'êtres humains, ayant été torturés, ayant subi toutes les formes d'injustice innommables, ayant aligné un tas de mauvaises décisions, ont l'habitude, en réaction à toutes les humiliations et injustices subies, les douleurs, les frustrations, les humiliations, les déceptions, ils réagissent à tout cela par l'orgueil. La majeure partie des êtres humains. La majeure partie des êtres humains. Face à la souffrance subie pendant longtemps, ont comme seul élément de défense l'orgueil. Or, que dit la parole de Dieu concernant l'orgueil? Dieu résiste aux orgueilleux. Quel que soit le niveau de frustration que vous avez eu, le niveau de déception, de désillusion, d'humiliation que vous avez subi, que vous réagissiez à vos douleurs subies pendant longtemps loin de Jésus-Christ par l'orgueil, est contre-productif. Ils viennent là, constatent paradoxalement qu'ils se sentent aimés, constatent paradoxalement qu'ils sont aimés par Christ, mais ne veulent pas combattre l'orgueil. Reconnaissent la présence de Christ, mais l'orgueil qui s'est forgé est devenu dur comme une carapace. Est devenu le premier outil de communication dans la relation à autrui et mécaniquement dans la relation à Christ. L'être humain qui est blessé, dont les blessures n'ont même pas souvent été cicatrisées, nous parlons souvent des blessures de l'âme, doit traverser le schéma traditionnel. Il avait besoin de se défendre, de se justifier, pour accepter le schéma nouveau du renouvellement de son être tout entier, qui veut que son intelligence soit soumise à la volonté de Dieu. Et si son intelligence est soumise à la volonté de Dieu, il doit se laisser tomber, donc laisser la nécessité de se défendre, de se justifier, ou de paraître. Pendant longtemps, l'a anéanti. Il n'avait pas Dieu. Dieu qui est le réparateur de tout vient, mais la personne continue à estimer qu'il lui faut paraître, il lui faut se défendre, il lui faut se justifier, il lui faut... Non, 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 non. Si vous constatez que vous êtes aimé par Christ, et vous comprenez qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, tout ce qui était système de défense antérieur à la rencontre avec Christ est donc désuet, obsolète. L'obsolescence de votre système de défense, doit mécaniquement générer une dilution et finalement une disparition de votre orgueil. C'est une simple question de réalisme et de bon sens. L'obsolescence de votre système de défense que vous avez utilisé pendant des décennies, en l'absence de Christ, en l'absence du processus de proximisation et finalement la proximité acquise en Jésus-Christ, l'obsolescence de votre système de fonctionnement doit déclencher chez vous comme approche stratégique, opérationnelle, la nécessité, l'urgence de l'humilité. Car ce n'est plus vous qui vivez. C'est en Christ que vous vivez. C'est Christ qui devient votre défenseur. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Vous n'avez plus rien à montrer à personne. Vous n'avez plus à dire que vous êtes une valeur. Dieu est là pour faire les réparations. Et comme il va faire les réparations, parce qu'il est le meilleur des justiciers, quand vous allez vous humilier, parce que vous vous êtes humilié, il va réparer votre vie. Il va corriger le tir. Il va vous renouveler. Il va vous restaurer. Il va vous transformer. Il va vous enjoliver. Et quand il va vous remettre en surface, on verra sa gloire. Vous serez élevé. Pas ses soins, pas par votre volonté, pas par votre intelligence, pas par votre perception, intellection, interprétation de la réalité, mais par sa gloire, sa volonté, sa grâce qu'il a estimée selon la manière dont vous avez réussi à épouser l'obéissance, la soumission, le don de soi à sa personne. Délivrez-vous de l'orgueil sous toutes ses formes. C'est un blocage majeur dans l'acquisition de votre bonheur. Je dis que l'orgueil est un blocage majeur dans l'acquisition de votre bonheur. Il empêche à Dieu de faire tout ce qu'il veut faire de vous. Il empêche à Dieu d'être votre serviteur. Quittez les justificatifs. Quittez les plaintes. Quittez la rancune. Quittez les regrets. Vous êtes en train de travailler contre vous. Avez-vous remarqué que Christ vous aime? Alors, laissez-vous tomber. La solution est là. Même si vous ne la voyez pas, la solution est là. Laissez à Dieu la possibilité de danser avec vous, de vous montrer de quoi il est capable, de réparer chaque compartiment de votre vie qui a été détruit, alors même que vous n'avez pas idée de la gravité du mal qui vous a été fait. Laissez à Dieu la possibilité de tout changer, de remplacer les pièces endommagées, de tout recadrer, de tout restituer, de tout restituer dans votre vie, de tout réorienter, de tout configurer, reconfigurer pour votre bonheur, jusqu'à ce que quand le produit final est beau, qu'il vous mette au soleil et que sa gloire brille. L'orgueil est une réaction de pauvreté. L'orgueil est une réaction d'impuissance. Quand tu te sais aimé par Christ, tu n'as plus besoin de cette réaction. L'orgueil est la preuve qu'on est impuissant. L'orgueil est même la preuve qu'on n'a pas Christ. Parce que quand tu as une pleine conscience d'avoir Christ, tu n'as plus besoin de te défendre. Il s'en occupe, il gère tes dossiers. Fais-lui plaisir, ne résiste pas. Dieu n'a pas besoin que vous soyez parfait pour vous aimer. Il n'en a pas besoin. Il a seulement besoin que vous aimiez. Que vous l'aimiez. Oh, l'aimer, c'est se soumettre. L'aimer, c'est obéir. L'aimer, c'est se laisser bercer. C'est se laisser guider. C'est se laisser orienter. C'est se laisser remouler. Laissez votre fausse fierté que vous avez eu à acquérir dans les milieux païens. Quittez de là, je vous donne des clés, c'est la vie. Je vous donne des clés, c'est le chemin. Je vous donne les clés, vous pouvez ouvrir toutes les portes avec ça. Quittez de là, vous n'avez rien à prouver à personne. Soyez préoccupé seulement de plaire à Dieu, de faire les choses selon sa volonté. Laissez-lui la liberté de vous redessiner. de reconfigurer votre vie. Ne vous ai-je pas enseigné depuis plus de 4 ans que Dieu planifie votre vie mieux que vous-même? Qu'est-ce que vous faites dans l'orgueil? Qu'est-ce que vous faites dans la haine? Qu'est-ce que vous faites dans les jalousies? Qu'est-ce que vous faites dans les complexes d'infériorité, de supériorité? Qu'est-ce que vous faites dans la contestation, la protestation? Qu'est-ce que vous faites dans la résistance? Alors que tout est offert, tout est possible, tout est déjà là pour vous. Quand vous avez Christ, vous avez tout. Qu'est-ce que vous faites à empêcher à Dieu de planifier votre vie, d'être votre serviteur? Reconnaissez-lui sa place. Donnez-lui totalement sa place dans tous vos choix de vie, dans votre cœur. Laissez-lui vous montrer sa beauté. Celui qui se sait aimé par Dieu n'a plus besoin de développer l'hypocrisie comme système relationnel. Celui qui se sait aimé par Dieu n'a plus besoin de développer la fourberie comme démarche communicationnelle. Celui qui se sait aimé par Dieu n'a plus besoin d'être cupide. Il habite le royaume de richesse. Celui qui se sait aimé par Dieu n'a plus besoin de mentir. Il habite la vérité. Que faites-vous dans des péchés qui empêchent à Dieu de vous faire plaisir? Celui qui se sait aimé par Dieu sait que Dieu ne pense que son bien, ne veut que son épanouissement, son bonheur. Celui qui se sait aimé par Dieu a une seule peur. De toutes les peurs qui puissent exister sur terre, la seule qu'il puisse avoir, c'est que Dieu ne soit pas satisfait. Je suis en train de vous expliquer de façon pratique le sens de Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis vraiment dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si vous vivez ainsi, pourquoi luttez-vous contre qui encore? Puisque vous n'avez plus besoin de lutter, Dieu lutte pour vous. Il combat pour vous. La parole de Dieu vous le dit. Vous souffrez de n'avoir pas compris qu'il faille en urgence donner à Christ la première place et le laisser guider, diriger votre vie. Celui qui se sait aimé par Christ pardonne tout. Ne peut pas être jaloux. Celui qui se sait aimé par Christ supporte tout. Pourquoi? Il est inondé par l'amour de Dieu. Cet amour fait que, au fur et à mesure que le temps passe, il n'a que les sentiments de l'Esprit Saint et les sentiments des anges de l'Éternel. Il n'a plus les sentiments de l'humain païen, de l'humain ordinaire, de l'humain non-croyant. Il est dans une fusion qui l'amène à n'avoir que des préoccupations qui sont prioritairement celles rattachées à la volonté de Dieu pour sa propre vie. Celui qui se sait aimé développe l'amour pour ses frères et sœurs. C'est une conséquence mécanique. C'est pourquoi quand on vous donne de l'amour, quand Dieu vous donne de l'amour et vous ne savez pas le restituer, il est évident que vous souffrez d'une forme de psychopathologie difficile à identifier pour la médecine moderne. Car normalement, un individu qui se sait aimé aime les autres. Et dans l'amour, il y a le souci d'aider les autres. Car tu as été aidé par Dieu, par d'autres instruments, toi étant passé au stade d'instrument, Dieu va aussi aider les autres par toi. Mais comment est-il possible que Dieu aide les autres par toi si tu n'es pas capable de restituer l'amour que tu as reçu et que tu continues à recevoir? Comment se fait-il que beaucoup d'entre vous aient réussi à constater qu'ils sont aimés par Christ, mais qu'il n'y ait pas un transfert d'amour d'eux vers autrui? Il faut vous désenfermer de l'éducation que vous avez reçue. Il faut vous dédogmatiser des schémas traditionnels dans lesquels vous avez grandi. Il faut vous déconstruire de l'infirmité qui a nourri chez vous une légitimité du péché. Il faut vous démonastériser, car vous sortir des monastères va enlever en vous la légitimité de la médiocrité. La religion est un système de médiocrité, pathogène, chrysogène, conflictogène, cancérogène. Et je reprends. La médiocrité. Et pour mieux pour corriger mon propos, la religiosité telle que pratiquée sur terre depuis des millénaires, est conflictogène, chrysogène, pathogène, cancérigène et même criminogène. Elle génère des crimes, des cancers, des crises, des conflits. C'est ce que ça veut dire en français facile. Que faites-vous encore dans les logiques de médiocratie? Vous vous sentez aimé. Pourquoi votre amour ne se diffuse pas puisque vous le recevez en abondance? On ne donne pas quelque chose qu'on n'a pas. La question, pour vous qui avez la grâce de connaître Christ, est de savoir s'il est vrai que vous savez aimer et vous sentez aimer, qu'est-ce qui vous empêche d'aimer? Qu'est-ce qui vous empêche de dégager toute la lumière que vous recevez? De rayonner de toute la beauté de la lumière que vous recevez? Pourquoi les jalousies vivent-elles encore en vous? Pourquoi les complexes d'infériorité ou de supériorité sont encore en vous? Pourquoi le murmure est encore en vous? Pourquoi les esprits de sabotage sont encore en vous? Pourquoi l'orgueil parle-t-il encore en vous? Pourquoi la cupidité parle-t-elle encore si fort? Pourquoi y a-t-il autant de vulgarité chez vous? Pourquoi la fourberie est-elle encore si légitime chez vous? Pourquoi le vol est encore légitime chez vous? Pourquoi la paresse est encore assise dans votre vie? Pourquoi l'ivrognerie parle encore chez vous? Pourquoi la débauche parle encore chez vous? Pourquoi la prostitution parle encore chez vous? Avez-vous pris la mesure de l'incidence? Des incidences plurielles, variabilisées, démultipliées, rattachées à la conscience d'être aimé par Christ. C'est une conscience avec impact. C'est une conscience avec acte de décision. Car il n'y a pas un pont naturel entre la conviction et l'action. Il faut l'acte de décision. Qu'est-ce qui empêche l'acte de décision? Qui vous amènerait à habiter la pratique de l'aimant? Les usages de l'aimant? Les habitudes de l'aimant? Les attitudes de l'aimant, les modes de pensée de l'aimant. pour une meilleure appropriation conceptuelle, philosophique, idéologique, affective, je change la démarche. Pourquoi n'avez-vous pas les réactions de l'aimé? La personne qui se sent aimée, qui se sait aimée, qui vit l'amour de Dieu, vit le confort de sa présence. Parce que Christ est généreux envers elle, elle-même se retrouve mécaniquement dans une forme de générosité vis-à-vis des autres. Car la présence de Christ lui apporte la paix. Tant que vous n'avez pas de paix en Jésus-Christ, c'est parce que vous habitez le péché. La contestation déclenche le trouble. La protestation dérange la paix. La haine et les violences, les rancunes perturbent votre paix. Les esprits de discorde vous arrachent le plaisir de l'aimer. Si de toute votre vie, vous n'avez jamais connu la paix, aujourd'hui, vous avez droit à la paix. Vous avez droit à un paradis sur terre. Avant de connaître le royaume des cieux, ailleurs, ici, ce royaume est possible. Vous êtes de la génération qui va vivre et qui est en train de vivre, même si cela n'est spirituel que pour beaucoup, l'accomplissement de ce que tous les véritables serviteurs de Dieu ont espéré de toute leur vie. La matérialisation du royaume des cieux sur terre. C'est pourquoi les méchants mourront, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour vous voler votre joie. Qu'il n'y ait plus personne pour vous voler la gloire de Dieu. Qu'il n'y ait plus personne pour vous voler votre santé, vos vies, vos étoiles, votre bonheur. Qu'il n'y ait plus personne pour vous empêcher de connaître la saveur du paradis. Et alors, pourquoi ne voulez-vous pas avoir les pensées du paradis maintenant? Puisque vous êtes le premier stade de matérialisation de cette expérience historique. Inaugural, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Si vous êtes aimé, que vous le reconnaissiez totalement ou pas, pourquoi n'avez-vous pas les pensées de l'aimer, les paroles de l'aimer, les actes de l'aimer, le comportement de l'aimer, la façon de ressentir de l'aimer? Celui qui est aimé, est-ce qu'il produit la haine? Celui qui est aimé, est-ce qu'il produit la condescendance? Celui qui est aimé, est-ce qu'il agit pour détruire? Et celui qui est aimé, est-ce qu'il est destructeur? C'est en cela que ces questionnements devraient être posés aujourd'hui. Les questionnements qui vous amènent à méditer sur le sens de l'amour que vous recevez déjà en abondance, que vous reconnaissez même quand vous ne voulez pas parler, que vous reconnaissez même quand vous ne voulez pas témoigner, que vous reconnaissez même quand vous ne voulez pas l'avouer. Vous avez rencontré Christ. La parole de Dieu dit que nul ne peut venir au Père éternel et repartir comme il est venu. Depuis que vous avez rencontré Christ, tout comme aujourd'hui, vous avez eu énormément de délivrance, énormément de guérison, beaucoup de restauration, et ça va aller crescendo, de mieux en mieux. Oui, vous êtes béni. Oui, peuple d'Israël, descendance d'Abraham par alliance à Jésus-Christ. Oui, vous êtes béni. Peuple de Canaan, oui, vous êtes béni. Ne ratez plus l'occasion d'être au niveau mental, comportemental, dans la totalité du comportement de celui qui se sait aimé par Jésus-Christ. Soyez richement et abondamment béni.